sommaire de cette édition, le Maroc, le roi Mohamed VI a visité aujourd'hui au port de Tangéville les différents chantiers du projet de reconversion de la zone portuaire, un programme qui mobilise des investissements de l'ordre de 6,2 milliards de dirhams et qui vise à positionner Tanger comme une destination phare du tourisme, précision et analyse dans ce journal. Le dossier syrien, retour sur cette victoire diplomatique hier à l'ONU. Le vote de la résolution sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien, même si les subtilités du texte risquent de limiter son efficacité. Nous verrons cela. Les journaux iraniens saluent largement le contact téléphonique historique entre le président Hassan Rouhani et son homologue américain Barack Obama, évoquant la fin d'un tabou vieux de 35 ans. Nous appellerons Siavosh Ghazi à Téhéran. Dans ce journal également, l'Italie replonge dans la crise politique. En cause, la décision des ministres du PDL, la formation de Silvio Berlusconi, de quitter le gouvernement. Un geste fou selon le président du Conseil. Et puis du football, le FC Barcelone fonce à 100 à l'heure. Une nouvelle victoire aujourd'hui face à Almeria. Un départ canon en Liga, du jamais vu, nous dira Hakim Tamim à la fin de ce journal. Bonsoir à tous. Au Maroc, le roi Mohamed VI a visité aujourd'hui au port de Tangéville les différents chantiers du projet de reconversion de la zone portuaire, un programme qui mobilise des investissements de l'ordre de 6,2 milliards de dirhams. Ce projet vise à positionner la ville comme destination phare du tourisme de plaisance et de croisière à l'échelle de la Méditerranée. Mounia Belharbi.
L'objectif est effectivement de faire de la ville de Tanger une destination phare du tourisme de plaisance et de croisière. La reconversion du port de Tangéville a débuté en mai 2011 et devrait s'achever en 2016 pour un coût de 6 milliards 200 millions de dirhams. Le futur port est édifié sur 84 hectares de terre-plein. Il comprendra une immense marina de 1600 anneaux, c'est-à-dire 1600 places de bateaux de plaisance dans un premier temps. Et il pourra accueillir également les grands paquebots de croisière jusqu'à 3 simultanément. Et pour les touristes, 2 palaces seront construits dans l'enceinte du port, en plus de 3 résidences touristiques, ce qui permettra de faire passer la capacité d'hébergement de Tanger de 7400 lits actuellement à 9000 lits. Le projet prévoit aussi des espaces culturels, commerciaux, festifs, événementiels, avec la construction d'un palais des congrès, d'un musée, un multiplex cinématographique et un centre commercial sur près de 15 000 m². Avec bien sûr des aménagements adaptés, plateaux de bureaux, un ensemble de parkings dont 1000 places en souterrain. À souligner que cette reconversion du port permettra de maintenir les activités de pêche avec la réalisation d'un tout nouveau port moderne destiné aux pêcheurs de Tanger. Enfin, un moyen de transport original et écologique sera mis à la disposition des touristes mais aussi des habitants. Un téléphérique qui assurera la liaison entre le nouveau port, la Casbah et le centre-ville de Tanger.
Le projet de reconversion de la zone portuaire, un projet ambitieux et qui vient s'imbriquer dans le plan de développement de Tanger et sa région. Écoutez Hassan Mzerma, il est directeur général délégué de la société d'aménagement pour la reconversion de la zone portuaire de Tangéville.
C'est d'abord en fait la première opération de reconversion d'un site portuaire industriel à l'échelle du royaume et la deuxième expérience à l'échelle du continent. C'est un projet multidimensionnel, donc il y a la dimension portuaire qui est présente. Le projet se base sur les infrastructures portuaires existantes, les améliore, on fait des extensions pour accueillir de nouvelles activités comme la plaisance. Tanger, en fait, aura à l'horizon 2016 la plus grande marina de sa région, la Méditerranée occidentale. Il y a également la pêche, un nouveau port de pêche qui est en cours de construction, qui fait 2 fois pratiquement et demi la capacité du port actuel. L'autre dimension, c'est la dimension urbaine. Et en fait, le port s'ouvre totalement sur la ville. Il érige en fait des espaces publics conçus comme des espaces de promenade pour les Tangérois et les visiteurs, mais également des espaces qui pourront abriter des festivités, des activités touristiques, culturelles, etc. Tanger a toujours été un carrefour, un point de rencontre de différentes cultures et c'est cette tradition-là qui se perpétue effectivement avec des projets qui sont structurants. Le grand projet de Tanger Métropole, en fait, toute la rénovation urbaine devient un point nommé pour que justement, dans 3-4 ans, Tanger sera une autre ville et on dira en fait que Tanger retrouve, entre guillemets, son passé glorieux. C'est le but de ce projet.
Le prince héritier Moulay El-Hassan a présidé ce soir à Rabat la cérémonie de célébration du cinquantenaire de l'ONCF. Pour cet anniversaire symbolique, un programme gare en fête est prévu dans 10 gares du royaume. Le Maroc, où l'heure légale ne changera finalement pas cette nuit, l'horaire des TGMT plus 1 est maintenu jusqu'au 27 octobre sur décision du Conseil du gouvernement. Au Maghreb, toujours en Tunisie, Ennahda accepte de négocier avec l'opposition laïque pour sortir le pays de la crise. Des négociations qui pourraient débuter lundi selon le parti islamiste au pouvoir. Mais rien n'est moins sûr puisque ce soir, le syndicat UGTT appelle à fixer une date précise pour lancer le dialogue national. L'Égypte rappelle son ambassadeur à Tunis, une décision qui intervient après l'appel du président tunisien à la libération du président déchu Mohamed Morsi. Ce jour de colère pour les chômeurs en Algérie, des centaines de personnes ont manifesté dans les grandes villes du pays pour réclamer du travail et menacent de poursuivre leur action s'ils ne sont pas entendus. Et puis ces nouvelles tentatives d'immigration illégale, 12 clandestins ont été interceptés hier au large de Mostaganem. Dans l'actualité en Afrique, il y a aussi cette nouvelle attaque au Mali. Attaque suicide contre un camp de l'armée à Tombouctou. 2 civils ont été tués. Le gouvernement prend ce soir des dispositions pour renforcer la sécurité sur l'ensemble du territoire. La contestation se durcit au Soudan. Des milliers de manifestants sont de nouveau descendus dans la rue à Khartoum. Cela fait 6 jours que le pays est plongé dans la crise et les violences. Et puis les élections législatives en Guinée, plus de 5 millions d'électeurs étaient appelés aux urnes. Aujourd'hui, le scrutin s'est déroulé sans accroc. La guerre en Syrie, les discussions se poursuivent à l'ONU afin d'organiser une prochaine conférence de paix en Syrie, dite Genève 2. Les Nations Unies, encouragées par le vote hier de la résolution sur le démantèlement de l'arsenal chimique syrien, une victoire diplomatique, chaque camp a obtenu des garanties, mais les subtilités du texte risquent de limiter son efficacité. Ainsi, la résolution ne prévoit aucun régime de sanctions automatiques en cas de non-respect de ces termes. Écoutez l'analyse de Thomas Pierret, il est universitaire et spécialiste de la Syrie.
Russes et Américains s'accordent pour trouver un terrain d'entente minimal qui a pour seule fonction d'assurer la survie de ces discussions diplomatiques. Mais il ne s'agit pas du tout de mettre fin au conflit. D'une part parce que les Russes n'ont aucune intention de lâcher Assad. Et d'autre part parce que les Américains ne s'accommodent pas trop mal de cette situation, ce qu'on l'a bien vu durant la crise des armes chimiques. Ils ne sont pas du tout pressés de voir Assad quitter le pouvoir non plus. Voilà, leur priorité, c'est d'enlever à Assad ses armes chimiques, peut-être, parce que je pense que le processus onusien ne garantit même pas ça. Même du point de vue de la question des armes chimiques, je pense que ce que les Américains et les Russes présentent comme une avancée majeure est quelque chose d'extrêmement limité, en ce sens que le texte sur lequel ils se sont mis d'accord ne prévoit pas de recours à la force automatique en cas de non-observation par la Syrie de ses engagements. Un recours à la force exigerait une deuxième résolution que les Russes auraient évidemment tout loisir de bloquer par leur veto. Donc je pense que le texte sur lequel les Russes et les Américains ne sont pas d'accord n'a fondamentalement pas beaucoup d'importance.
Thomas Pierret, interrogé par Christophe Drevet. Sur le théâtre syrien, notez que des insurgés épaulés par des combattants islamistes venus de l'étranger ont pris aujourd'hui le contrôle d'un poste militaire près de Deraa. Avancée dans le dossier syrien, mais également sur le dossier sensible du nucléaire iranien, les négociations vont reprendre et signe de la détente entre Washington et Téhéran. Barack Obama et Hassan Rouhani se sont parlé hier au téléphone, une première depuis la révolution iranienne. À son retour à Téhéran, Hassan Rouhani a été très applaudi par ses partisans. À Téhéran, justement, nous appelons notre correspondant Siavosh Ghazi.
Le président Rouhani a été accueilli à Téhéran par des partisans mais aussi des adversaires, alors qu'entre 200 et 300 personnes criaient Rouhani Mochakerim, Rouhani merci en persan, un jeune islamiste a lancé une chaussure en direction de la voiture présidentielle sans toutefois l'atteindre. Malgré ces manifestations, la presse a largement salué le succès diplomatique du président à New York. En particulier, les journaux ont salué l'entretien téléphonique avec le président Obama qui met fin à 35 ans de tabou entre les deux pays. Il s'agit en effet du premier contact à ce niveau entre Washington et Téhéran depuis la révolution islamique de 1979, alors que les deux pays n'ont pas de relations diplomatiques. Les deux hommes se sont mis d'accord pour demander à leur ministre des Affaires étrangères de rester en contact pour trouver une solution diplomatique à la crise du nucléaire iranien. Dans cet entretien, j'ai insisté sur les droits de la nation iranienne en matière nucléaire en précisant qu'il s'agissait d'une question de fierté, a déclaré Hassan Rouhani. L'Iran refuse de céder sur son programme nucléaire, en particulier l'enrichissement d'uranium, en affirmant qu'il s'agit purement d'un programme civil. Israël et certains pays occidentaux accusent Téhéran de chercher à fabriquer l'arme atomique, ce que Téhéran a toujours démenti. Preuve que les choses ne sont pas aussi faciles, le président du Parlement iranien, le conservateur Ali Larijani, a déclaré que les États-Unis devaient montrer dans les faits qu'ils avaient changé de politique, car un changement de ton n'était pas à lui seul suffisant. Siavash Kiazi, Téhéran Média.
L'Italie replonge dans la crise politique. Les ministres appartenant au Parti Peuple de la Liberté de Silvio Berlusconi ont démissionné du gouvernement dirigé par Enrico Letta. Le Cavaliere accuse le président du Conseil d'avoir enfreint le pacte de coalition en réclamant un vote de confiance. 7 mois après les dernières législatives, de nouvelles tractations vont être nécessaires pour éviter un retour aux urnes. À Rome, nous retrouvons notre correspondant Robert Laroche.
Cette fois, les jeux semblent faits. Avec la démission des 5 ministres du parti de Silvio Berlusconi, l'Italie est entrée dans la dernière ligne droite qui mène à la crise gouvernementale. Tout s'est accéléré à l'improviste en fin d'après-midi, samedi. Le Cavaliere a officiellement exigé ce geste à ses ministres qui ont immédiatement obéi. À l'origine, la réunion fixée pour vendredi prochain 4 octobre d'une commission du Sénat qui doit déchoir Silvio Berlusconi de son mandat de sénateur après sa condamnation à 4 ans pour fraude fiscale début août. Convaincu d'être victime d'un complot d'une justice communiste et que, privé de son statut de sénateur, il risque d'être arrêté par l'un des parquets qui enquête sur lui, le Cavaliere a obtenu dans le courant de la semaine que ses parlementaires, en guise de solidarité, présentent à leur tour leur démission en cas de déchéance. Conséquence immédiate, l'impossibilité pour la bizarre majorité gouvernementale gauche-droite qui guide le pays depuis avril dernier pour cause d'un passage institutionnel d'aller de l'avant. Enrico Letta, homme de gauche, président du Conseil par nécessité, a toujours dit d'être prêt à lâcher s'il n'a pas les moyens de gouverner. Or, c'est le cas. Le gouvernement est de fait paralysé. D'importantes décisions budgétaires ont été reportées et M. Letta veut mettre au plus vite les choses au clair devant le Parlement. Après l'annonce du départ des ministres de droite, un geste qu'il taxe de fou et irresponsable, difficile qu'il puisse obtenir la confiance, à moins d'un changement de majorité qui pour l'instant ne semble pas mûr. Du coup, la seule issue envisageable semble donc la crise. Robert Laroche, à Rome, pour Média.
En Grèce, les autorités ont frappé un grand coup en arrêtant le dirigeant du parti néo-nazi, Obdoré, mais également plusieurs députés de sa formation. Arrestation après l'assassinat par un militant d'Obdoré d'un rappeur antifasciste. Le gouvernement durcit le ton sous la pression des Européens. Écoutez l'éclairage de Georges Prevelakis, spécialiste franco-grec de géopolitique.
Le gouvernement a marqué un coup en profitant de la faiblesse de l'Obdoré. C'est-à-dire, cet assassinat a été une très grande erreur politique de l'Obdoré. Je ne parle pas de l'aspect moral, évidemment, mais sur le plan de la stratégie, ça a été une erreur. Et le gouvernement profite de cette erreur pour le combattre. Il peut maintenant faire valoir que ce n'est pas une forme de répression politique, mais tout simplement la lutte contre la criminalité. Et là, cette application de la loi a des conséquences politiques. L'Obdoré en soi peut-être va être étouffé. Ça dépend beaucoup de l'organisation et de l'efficacité, si vous voulez, des cadres de l'Obdoré. Mikhaloyakos, il ne faut pas le sous-estimer, c'est quelqu'un d'intelligent. Maintenant, qu'est-ce qui se cache derrière? On a l'impression que c'est un amalgame d'éléments très variés, de fanatiques, de gens qui n'ont pas beaucoup de contact avec la réalité, des éléments criminels. Donc, sans un encadrement efficace, peut-être que l'Obdoré ne va pas pouvoir survivre à ses coups.
Allez, on parle sport maintenant avec du football et le FC Barcelone qui bouscule tout sur son passage en Liga. Une nouvelle victoire aujourd'hui face à Almeria, 2-0. C'est tout simplement le meilleur début de l'histoire du Barça en championnat, Hakim Tamim.
Cette victoire en autant de matchs, du jamais vu en 82 Liga, c'est tout simplement le meilleur départ de l'histoire du club catalan dirigé par le technicien argentin Tata Martino. Même les emblématiques Johan Cruyff et Pep Guardiola n'ont jamais réussi cette performance sur le banc du Barça. Le champion sortant s'est imposé sur le terrain d'Almeria ce soir, 2-0 avec un but de Lionel Messi, c'est lui qui a ouvert le score, mais le quadruple Ballon d'Or a quitté le terrain à la demi-heure de jeu. Le joueur argentin de 26 ans ans, souffre d'une déchirure musculaire à la cuisse droite et passera des examens demain pour connaître la gravité de la blessure. Il risque de rater le match de mardi contre le Celtic Glasgow à l'occasion de la deuxième journée de la Ligue des clubs champions. La presse catalane parle même de 3 semaines de repos et prie pour qu'il soit présent contre le Real Madrid dans un mois. Il y a quelques semaines, il avait souffert d'une fatigue musculaire puis d'une contusion à cette même cuisse.
Et puis il y a quelques minutes, et c'est une surprise, la défaite à domicile du Real, 1-0 face à l'Atlético à domicile. La suite de la troisième journée dans le championnat du Maroc, victoire du Maghreb de Tétouan ce soir, 1-0 face au Wydad de Fès. Et la victoire à l'extérieur, c'est à noter, des Phares, 2-1 contre l'Olympique de Safi. Enfin, sachez que Miss Philippines a remporté aujourd'hui le titre de Miss Monde au cours d'une cérémonie sur l'île de Bali. Cette étudiante en cinéma a battu 5 autres finalistes, dont Miss France et Miss Ghana.